Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 7h.
Le palais de Tokyo fait 22 000 mètres carrés. Même avec une jauge restrictive, ça permet quand même d'accueillir pas mal de gens. Ça permet des promenades masquées sans le moindre risque.
Les professionnels de la culture réclament la réouverture de leurs établissements, notamment les musées. Ils rencontrent leur ministre Roselyne Bachelot demain, mais l'exécutif veut encore temporiser, nous dira Aurélie Herbemont.
Les premières doses du vaccin AstraZeneca seront administrées ce week-end. C'est le troisième vaccin autorisé en France.
À Saintes, les habitants redoutent les prochaines heures. Plusieurs secteurs sont déjà inondés et la Charente n'a pas encore atteint son pic.
Enfin, vous connaissez peut-être ce petit essai d'une trentaine de pages. Il caracole en tête des ventes ses 15 dernières années en librairie. Indignez-vous de Stéphane Hessel.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une réunion que les professionnels de la culture attendent de pied ferme. Leur ministre Roselyne Bachelot leur a promis un dialogue demain.
Depuis le 30 octobre, ce qui fait donc un peu plus de 3 mois, il n'y a pas de cinéma, pas de théâtre, pas de musée. Le secteur est totalement à l'arrêt et ces derniers jours, les appels à la réouverture se multiplient. Diane Berger.
Il y a d'abord une pétition signée par plusieurs dizaines de représentants du secteur culturel, dont Philippe Dian, président des Amis du Palais de Tokyo.
Le Palais de Tokyo fait 22 000 mètres carrés, même avec une jauge restrictive, ça permet quand même d'accueillir pas mal de gens en même temps. Ça permet vraiment des promenades masquées sans, de notre point de vue, le moindre risque.
Alors, avec ses co-signataires, il demande une réouverture des musées, même avec des conditions sanitaires drastiques. C'est aussi ce que souhaite Alain Rousset, le président de la région Nouvelle Aquitaine, il propose une expérimentation scientifique pour ouvrir les lieux culturels.
On est en train de consulter des scientifiques, des épidémiologues. L'idée, c'est de prendre tous les items qu'il peut y avoir de risque de contamination, les poignées de porte, la taille de la salle, et de faire en sorte qu'on puisse avoir un code de bonne pratique.
Et à terme, sortir la culture de cette longue attente, pénible, explique-t-il, aussi bien pour les artistes que pour les personnes en quête d'évasion.
Alors on le voit, les appels sont de plus en plus nombreux, appels à rouvrir certains lieux, sous conditions évidemment, mais il y a peu de chances qu'ils soient entendus, du moins pas dans l'immédiat. Voilà ce que nous explique Aurélie Herbemont.
On est à ça de reconfiner, donc ouvrir un musée n'est pas vraiment cohérent avec la situation. Pour ce conseiller du Premier ministre, envisager le moindre assouplissement que ce soit ne semble pas à l'ordre du jour, et ce malgré les demandes de plus en plus pressantes venues des musées ou d'une quarantaine de députés LR qui ont écrit à Roselyne Bachelot pour réclamer le déconfinement des musées et autres monuments historiques. Le ministère de la Culture travaille bien sûr depuis cet automne avec les professionnels du secteur sur des protocoles sanitaires adaptés pour pouvoir rouvrir sans attendre que le virus ait disparu. Mais évidemment pas quand c'est très aigu comme aujourd'hui, admettons dans l'entourage de la ministre. Bref, les musées n'auront pas forcément de calendrier demain puisque c'est toujours le Covid qui donne le tempo, mais quand la situation s'améliorera, promet Matignon, ça fera partie des priorités de réouverture.
Et il y en a un parmi d'autres qui réclame cette réouverture des musées, c'est le patron de la fondation Art Explora, Frédéric Jousset. Il est mon invité à 7h40. Il y a une pétition à la clé avec 60 signataires. La campagne de vaccination anti-Covid se poursuit en France avec un nouveau venu hier, bien sûr. Il était attendu, le vaccin d'AstraZeneca.
Réservé d'abord aux soignants de moins de 65 ans, les premières livraisons sont arrivées hier et au CHU de Lille, les premières injections auront lieu tout à l'heure. Reportage de Maximilien Carlier.
Première injection 9h à la médecine du travail. Première dose ce dimanche pour une centaine de membres du centre hospitalier. François-René Pruvot, président de la commission médicale du CHU de Lille.
Ça va diminuer la tension, le stress, l'angoisse qu'avaient certains soignants de ne pas être vaccinés parce que très jeunes, 40, 50 ans, ça va rassurer tout le monde.
Des vaccins AstraZeneca stockés comme pour ceux de Pfizer dans une salle sécurisée.
Donc voilà les boîtes de flacons.
Mais cette fois, plus besoin de super congélateurs à moins 80 degrés. Pour les conserver. Pascal Audoux, responsable de l'Institut de pharmacie de Lille.
Voilà, là, si vous prenez le frigo, vous l'ouvrez, vous prenez les flacons comme on va chercher chez soi des choses dans le réfrigérateur, c'est exactement pareil.
Plus facile à transporter, des flacons plus gros, un flacon pour 10 injections et des injections plus espacées.
Le Pfizer, c'était 21 jours, puis ensuite on est passé à 28 jours selon les recommandations. Là, les recommandations, c'est une deuxième dose entre la 9e et la 12e semaine. Donc ça veut dire 3 mois après la première injection.
Des vaccins également plus faciles à administrer car pas de dilution, mais ils ne sont efficaces qu'à 70% en moyenne contre plus de 90% pour ceux de Moderna et Pfizer. Lille, Maximilien Carlier, Europe.
Cette nouvelle formule va permettre d'accélérer le rythme de vaccination. Aujourd'hui, plus d'1 800 000 personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin.
Et il faut aller vite, très très vite, car les variants menacent. Aujourd'hui, le nombre de cas de contamination n'explose pas, mais la présence du variant anglais notamment inquiète bien sûr les autorités.
Il progresse de 50% chaque semaine et pourrait, dès le début du mois de mars, devenir la version la plus répandue du virus, selon une projection publiée ce matin dans le journal du dimanche.
Ouais, le JDD qui par ailleurs s'intéresse à la situation économique du pays.
Avec une interview de la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, il ne faut pas serrer d'un coup les robinets, les économies ont encore besoin d'aide, dit-elle. Christine Lagarde prévoit une reprise de la croissance dans le courant de l'année. C'est Marie-Pierre Grondal du JDD qui l'a interviewée.
Après une très forte récession, 2021 devrait être une année de reprise, c'est-à-dire où ça va aller mieux. Et elle est plus optimiste encore à partir de mi-2022, où pour les experts de la BCE, c'est le moment où on reviendra au niveau économique d'avant le Covid. Donc Christine Lagarde, à la tête de la BCE, elle dit qu'il faut combattre le feu par le feu. La pandémie va très vite, donc nous devons aller très vite aussi. Dans la réflexion, dans la mise en place des plans, dans comment on investit cet argent, dans comment on adapte les économies au choc en permanence, jour après jour, semaine après semaine.
Marie-Pierre Grondal, rédactrice en chef éco du JDD. Christine Lagarde réaffirme par ailleurs que la BCE n'annulera pas les dettes publiques. C'est une mesure inenvisageable selon elle. L'ancienne candidate à la présidentielle, Ségolène Royal, annonce son retour en politique. Elle souhaite conduire une liste citoyenne aux élections sénatoriales pour représenter les Français de l'étranger. Ces élections auront lieu au mois de septembre.
Et la suite du journal arrive à 7h06. Restez avec nous un instant, c'est la ville de Sainte qui n'en a pas fini avec les crues. La Charente a dépassé les 6 mètres et le pic n'est pas encore atteint. A tout de suite.
Europe 1, votre matinale info. Pierre de Villeneuve.
7h08, la suite du journal de Marguerite Lefebvre. En France, la plupart des cours d'eau ont entamé leur décrue après les inondations de cette semaine. Ce n'est pas le cas de la Charente qui continue d'inquiéter les autorités.
Oui, à Sainte, notamment, la barre des 6 mètres a été dépassée, mais le pic ne sera atteint que demain. D'ici là, les évacuations se multiplient. Écoutez le lieutenant-colonel Joseph Verfailly, commandant des opérations de pompiers à Sainte.
Il y a aujourd'hui un certain nombre de rues qui sont inondées. On a essentiellement deux quartiers qui sont fortement impactés par la crue sur l'est de la ville. On a parfois plus d'un mètre d'eau dans les rues. Il peut y avoir des bouches d'égout qui sont ouvertes. Il peut y avoir des problématiques de ce type. Donc, il faut rester prudent. On a déployé un dispositif de 122 sapeurs-pompiers avec des renforts des militaires de l'unité d'intervention de la sécurité civile, des autres départements alentours. On basculera sur une surveillance ensuite de la décrue. Ensuite viendra le temps de l'assistance au nettoyage et à la réintégration des habitations par les habitants qui les ont évacués.
Le lieutenant-colonel Joseph Verfailly, commandant des opérations de pompiers à Sainte. En France, 9 départements sont toujours placés en vigilance orange pour ces risques de crue.
Ouais, précision de Valérie Darmon, juste avant le journal de 7h30. Un an après le début de l'épidémie, la SNCF veut se relancer.
La compagnie a subi un coup d'arrêt et souffre encore aujourd'hui avec 50% de passagers en moins le mois dernier par rapport à janvier de l'année dernière. La SNCF a un nouveau plan d'attaque. La stratégie sera verte, axée sur l'environnement. On voit ça avec Aurélien Fleurot.
Vous tomberez peut-être par hasard sur un TGV avec une rame de tête entièrement verte et dessus, inscrit en gros, deux chiffres. Le train, c'est 50 fois moins de CO2 émis que la voiture, 80 fois moins que l'avion. Il faut faire savoir, résume Alain Krakowicz, directeur de Voyage SNCF, et puis faire plus au sein de l'entreprise, comme par exemple favoriser l'éco-conduite.
On a souhaité équiper chacun de nos conducteurs un système d'information qui lui permet justement d'optimiser sa conduite par rapport au profil de la ligne. On puisse avoir jusqu'à 100 km sans aucune traction électrique, tout en respectant évidemment l'horaire.
Et pour incarner ce projet Planète Voyage, le parrain choisi est un marin, François Gabart, adepte du train quand il n'est pas en mer.
Il faut qu'on sache mieux les impacts de nos déplacements et qu'on prenne des décisions en conséquence de ces impacts. Et aujourd'hui, le train est une solution assez extraordinaire pour se déplacer avec un impact en équivalent d'émissions de CO2 qui est extrêmement bon.
TER hybride ou à hydrogène, les nouveaux trains seront encore plus économes en énergie, consommation en baisse de 20% pour le futur TGV-M, dont le nez particulièrement aérodynamique sera présenté dans quelques semaines.
Les explications d'Aurélien Fleurot.
En football, c'est un club qui décidément nous régale depuis le début de la saison.
Ouais, l'Olympique Lyonnais a repris hier la tête du championnat. L'OL n'a pas tremblé face à Strasbourg, victoire 3-0. Une soirée comme les aime l'entraîneur de Lyon, Rudy Garcia.
On a fait un très bon match. On voulait enchaîner par une quatrième victoire consécutive. On l'a fait, on ajoute 3 points, on voulait mettre la pression sur les équipes qui jouent demain, prendre la première place. On n'a pas pris de but, on en a mis 3. Le troisième est somptueux. C'est une très bonne soirée, oui. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur mardi, ça va venir vite, c'est la coupe. On veut bien évidemment se qualifier. On a fait le job, comme on dit, et voilà, c'est une satisfaction.
Rudy Garcia avec Maxime Schoch. Ce soir, on suivra entre autres le choc entre l'OM et le PSG. Ce sera à 21h à suivre, bien sûr, sur Europe 1. Les Bleus du rugby n'ont pas tremblé. Ils se sont largement imposés face à l'Italie en ouverture du tournoi Destination. Victoire de la France, 50-10.
Ouais, et puis alors outre-Atlantique, on a du lourd. Hein. Ça s'appelle le Super Bowl.
C'est l'un des plus gros événements de l'année aux États-Unis. C'est la grande finale du football américain et elle se jouera ce soir, malgré l'épidémie, Axel May.
Super Bowl 55 is a... Ce Super Bowl en temps de Covid a déjà réussi un petit exploit, se tenir à la date prévue. L'immense stade de Tampa Bay en Floride accueillera même du public. Sur les 75 000 places disponibles, un tiers seront occupées, dont 7 500 réservées au personnel médical pour le remercier. Les gros sponsors historiques, type Coca-Cola, ne seront pas au rendez-vous, comme s'ils craignaient que dépenser des millions de dollars pour un de ces spots publicitaires qui participent à la renommée du Super Bowl soit mal perçu par une partie de l'opinion qui souffre financièrement. À la mi-temps, il y aura bien le concert. L'interprète canadien The Weeknd sera à la manœuvre. Une femme, et c'est une première pour une finale, figure sur la liste des arbitres, avec sur le terrain, d'un côté, les Floridiens de Tampa Bay, emmenés par leur maître à jouer, la superstar Tom Brady, 43 ans, et de l'autre côté, la franchise de Kansas City, tenante du titre.
Voilà, donc avec The Weeknd hein, qui chante à la mi-temps, à réécouter la partition d'Omblin qui était consacrée à ce jeune chanteur canadien qui cartonne. Enfin, petit retour en arrière pour terminer ce journal. On connaît le palmarès des livres les plus lus, c'est 15 dernières années.
Oui, et c'est grâce à l'Institut GFK qui a publié les chiffres. Alors, il y a les évidences, mais aussi pas mal de surprises, vous allez voir, Nicolas Carreau.
Sans surprise, ce qui domine, ce sont les formats poche, les moins chers. Il y a les attendus, Da Vinci Code par exemple, de Dan Brown, 1 750 000 exemplaires chez Pocket, ou Catherine Pancol au livre de poche avec les yeux jaunes des crocodiles, 1 600 000, l'amie prodigieuse aussi, bien sûr, d'Elena Ferrante chez Folio qui se classe 14e, juste après Ensemble c'est tout, d'Anna Gavalda. Deux tomes d'Harry Potter, forcément, Le Prince de Sang-Mêlé est 11e, et Les Reliques de la Mort, 16e. Un seul classique. L'étranger de Camus, 6e du classement, et 5 bandes dessinées, mais toutes sont du même auteur et mettent en scène le même personnage, Astérix, aux 2, 3, 4, 5 et 8e place. Et en première position, tout en haut, loin devant, avec 2 200 000 exemplaires vendus, on retrouve un petit livre à 2 euros publié en 2010. Indignez-vous de Stéphane Hessel.
Nicolas Carreau.
À lire ou à relire. Merci Marguerite Lefebvre.